Coucou, bienvenue dans un nouvel épisode de Joie Sauvage. Je suis contente de vous retrouver pour cet épisode assez spécial où je vais vous parler de mon voyage et de mes 2 semaines que j'ai passées au sein d'un ashram en Inde. Un ashram, c'est un lieu de vie spirituelle où se retrouve une communauté qui est là pour le même objectif, on va dire, et qui doit aussi suivre certaines règles et certains codes de vie quotidienne, de pratiques spirituelles à faire tous les jours. Et c'était une expérience incroyable et formidable pour laquelle je serai toujours infiniment reconnaissante de l'avoir fait. Et c'est aussi un épisode que j'ai retardé un bon moment parce que j'avais besoin de prendre le temps d'atterrir, être aussi dans le bon mood et aussi parce qu'il y a tellement de choses à raconter que je pense que j'étais frustrée à chaque fois où je voulais vous en parler parce que je me rendais compte que je pouvais pas tout raconter sinon ça va durer des heures. Et je voulais aussi, je tenais quand même à partager avec vous ce que j'ai appris là-bas, les prises de conscience que j'ai eues. Et finalement, je vais essayer de faire un petit peu tout ça dans cet épisode. Alors, allons-y. Je suis arrivée en Inde le 21 décembre, après presque 24 heures de vol, je crois, 3 escales. J'arrivais enfin à la fondation Isha, qui se trouve à Coimbatore, au Tamil Nadu, au sud de l'Inde. C'est tellement au sud qu'on est plus proche du Sri Lanka que de New Delhi, par exemple, pour vous donner une idée. J'étais partie pour faire le programme qui est appelé Margali Sadhana, Margali Programme. Et en fait, Margali, c'est le nom d'un mois qui s'étale entre mi-décembre et mi-janvier, qui est pas mal célébré dans cette région-là, notamment de l'Inde, et qui est connu pour ses vertus spirituelles, puisque c'est une période de l'année où la planète Terre est la plus proche du Soleil. Et c'est une période qui énergétiquement renforce notre ancrage, renforce nos pratiques et leurs effets en fait sur nous. C'est une période qui est propice à l'immobilité et à la concentration sur soi-même. C'est une période par exemple où on ne se marie pas en Inde, on ne s'accouple pas parce que voilà, énergétiquement, c'est pas du tout la meilleure période pour ça. Et que c'est une période qui est plutôt faite pour l'inverse. Du coup, j'y suis allée aussi parce que je savais que Sadhguru allait être là-bas pendant tout le mois de Margali. Et aussi parce que pendant cette période-là, il allait donner 2 darshan, qui sont des sortes d'événements où Sadhguru vient pour faire un speech dont on voit souvent des extraits sur YouTube. Donc c'était franchement un de mes plus grands rêves de pouvoir assister à ça en vrai, de pouvoir voir Sadhguru, de pouvoir chanter les mantras avant qu'il n'arrive. Et si j'ai décidé d'aller à Isha, c'est parce que ça commençait à prendre tellement d'ampleur dans ma vie ces 2 dernières années, à tel point que je commençais à faire des plans d'avenir sur la base des programmes de Isha et sur la base des programmes de Sadhguru, et que j'étais tellement à fond tous les jours que c'était très important pour moi de pouvoir aller sur place pour découvrir les vibes, les énergies, pour m'assurer que c'était bien réel et vérifier si c'était vraiment comme ce qu'on nous communique sur les réseaux sociaux ou si ce n'était qu'une image, que du marketing. Et du coup, voilà, c'est un peu la principale raison pour laquelle j'y suis allée. Aussi parce que Sadhguru, pas vraiment, mais aussi parce que Sadhguru dit que les personnes qui rencontrent leur gourou dans une vie, elles ne se réincarnent pas, en fait. C'est leur dernière vie. Et je sais que, bon, ça parle pas à tout le monde. Ces histoires de plusieurs vies, de réincarnation. Moi-même, je suis issue d'une culture musulmane où on ne parle pas vraiment de réincarnation, tout ça. Mais moi, j'ai beaucoup aimé cette idée. Elle m'avait beaucoup séduite et je voulais vraiment rencontrer Sadhguru. Et comme lui-même l'a dit, encore faudrait-il vraiment rencontrer son gourou, parce que quand il a parlé de le rencontrer, c'est pas juste une rencontre physique, mais qu'une réelle rencontre ait lieu. Avant le voyage, J'étais pas mal stressée, la vérité. J'avais beaucoup d'appréhension. J'avais l'impression que j'allais vraiment plonger dans l'inconnu. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Et c'est aussi pour ça que je voulais y aller. Et j'étais aussi pas mal intriguée par cette peur que je ressentais. Je me disais qu'il y a quelques années, j'allais plutôt être excitée et hyper impatiente et tout. Mais là, à ce moment-là, j'étais vraiment stressée et j'avais peur. Et je me demandais ce qui se cachait derrière cette peur et tout. Mais je pense que c'était plus dans le sens où je ressentais déjà que ça allait, c'était pas un voyage comme les autres. Et que je pense que je me rendais compte aussi en fait de son sens et que je le prenais très au sérieux en fait ce voyage. Et que je voulais le réussir en quelque sorte. Dans le sens où ben, que je puisse vraiment rencontrer mon gourou, j'allais dire. Même si moi, je n'aime pas trop tous ces pronoms possessifs. Mon objectif aussi, quand j'ai voulu aller à Isha, c'était parce que je voulais aller au Dhyanalinga. Le Dhyanalinga, c'est un endroit, on va dire, sacré, qui existe là-bas, où on s'assoit et on médite. Et qui, selon Sadhguru, le fait de s'asseoir là-bas quelques minutes, ça nous purifie vraiment de toutes les énergies négatives. Et Dieu sait à quel point j'en avais besoin. Et pour moi, c'était vraiment ça l'objectif. Encore plus que de suivre assidûment le programme du Margali Sadhana, pour moi, l'objectif, c'était de passer autant de temps que possible au Dhyanalinga. Et j'y suis allée quasiment tous les jours. La plupart du temps, c'était au moins 2 fois par jour. Et ça m'a fait beaucoup de bien, je vous le dis déjà. Voilà, ça, c'était un petit peu pourquoi j'y suis allée, quelles étaient mes attentes. Et finalement, c'était 2 semaines hyper intenses. La première semaine, surtout, il s'est passé tellement de choses. Chaque jour, il se passait des choses extraordinaires. La première semaine, je crois que j'ai croiser Sadhguru presque tous les jours. Et juste ça en soi, c'était incroyable. Je ne m'attendais pas du tout au fait que j'allais pouvoir le croiser autant et le voir autant. Et le voir d'aussi près. Je vais vous raconter un petit peu tout ça parce que c'était vraiment hyper excitant. Et voilà, bon, ça c'était juste pour la première partie, on va dire, des raisons qui étaient derrière ce voyage. Pour moi, c'est quelque part, je n'avais aucun doute que j'allais partir à Isha un jour ou l'autre, quoi, et qu'il fallait que j'y aille, en fait. Et pour moi, c'était un objectif pour l'année dernière. Je voulais déjà y aller en juin, finalement, ça ne s'est pas fait, et finalement, j'y suis allée en décembre. Et voilà, même si c'était un objectif, je ne savais pas si j'allais vraiment le réaliser en 2023, mais finalement, il s'est réalisé. Et voilà, et c'était 2 semaines assez impressionnantes, on va dire. Mes premières impressions quand je suis arrivée sur place, c'était déjà la diversité des gens. Il y avait déjà des milliers de gens. Il y avait énormément de monde qui arrivait en même temps. La majorité des... Pratiquement tout est géré par des bénévoles. Il faut savoir que Sadhguru a des millions de bénévoles dans le monde. Et là, il y avait... Tout était géré par des bénévoles. Le check-in, l'accueil, partout, en fait, les résidences. Je comprenais enfin pourquoi on tardait autant à répondre à mes emails. Parce que j'ai pu voir de mes propres yeux toute la charge de travail qu'ils ont. Les premières choses qui m'ont frappée, c'est la joie avec laquelle les gens travaillent, malgré la charge, malgré la pression. Et pour moi, je voyais déjà que ben, ce que Sadhguru disait, les gens le faisaient, c'était bien réel, c'était pas de la théorie, c'était pas un idéal. Le fait d'être joyeux et joyeuse tout le temps et dans tout ce qu'on fait. Donc je pouvais bien voir ça déjà. L'autre chose qui m'a frappée, c'était des personnes, tout le monde pratiquement marchait pieds nus. Ce contact avec la terre qui est permanent. J'ai beaucoup aimé ça aussi. Après, le programme du Margali, c'était se réveiller tous les matins à 3h du matin, prendre une douche froide à 3h30. La douche froide où l'eau doit vous tomber directement sur la tête, pas sur le corps, les bras, les jambes, et puis ensuite on met l'eau sur la tête. Non, non, non. La douche, l'eau, c'est tout de suite directement sur ta tête. Et j'oublierai jamais la sensation de la première fois où j'ai vécu ça. Et en fait, ensuite, et quand on prend cette douche-là, froide, on la prend en mettant une tenue, une sorte de tenue de moine, orange. Et après ça, on part dans un bain sacré. Pas les sortes de fleuves qu'on voit en Inde où les gens vont se baigner. Non, c'est un bain qui a été, c'est un bain qui a été créé, voilà, par Sadhguru, et dans lequel on va se baigner. Tout ça à 3h30 du matin, et puis ensuite on commence les pratiques méditation, chant des mantras à 5h30, et ce jusqu'à 7h ou 7h30 environ. Et puis ensuite on avait des circuits à faire tout en récitant certains mantras. On avait deux repas par jour, végétarien bien sûr, à 10h du matin et puis à 19h. L'anecdote, c'est que pendant les 2 semaines, je me suis trompée de lieu de repas, et au lieu de manger avec les groupes, avec le groupe qui était inscrit au Margali Sadhana, et bien pendant 2 semaines, moi j'ai mangé avec les moines. c'était drôle parce que j'ai découvert ça mon dernier soir là-bas. C'est là où je me suis rendu compte qu'en fait je m'étais trompée. Et le dernier soir, j'ai découvert qu'en fait, les participants du programme, ils mangeaient dans une sorte de parc, en mode pique-nique, avec leur téléphone portable, qui rigolaient, qui parlaient. Alors que moi, pendant 2 semaines, je mangeais dans un grand hall, où on s'asseyait par terre, où il fallait pas parler. Bien sûr, il n'y avait pas de téléphone. Où on récitait des prières et des mantras et tout avant de commencer à manger. J'étais vraiment dans une toute autre atmosphère pendant 2 semaines. Et je suis contente d'avoir pu vivre ça. Au fond, je voulais vivre ça. C'était aussi des choses que je voyais sur Internet et que je voulais vivre. Et du coup, j'imagine que c'est pour ça aussi que j'y suis allée, quoi. Et enfin, que je suis rentrée dans ces fameux halls. Ce qu'il faut savoir sur le programme, donc du coup il y avait ça, et puis après on avait 3 ou 4 heures de qui étaient libres par jour, entre midi et 16h, quelque chose comme ça. Ensuite on avait encore une fois des méditations, voilà, des pratiques de respiration, tout ça, et jusqu'au soir. Et entre 21h et 11h du matin, on était en mode silence. On ne devait pas parler, on ne devait pas communiquer. On ne devait pas prendre notre téléphone, on ne devait pas lire de livres, rien faire vraiment. On devait porter un badge où il était écrit Sadhana, je crois, et du coup les gens savaient qu'on était en silence et personne ne nous parlait. Il fallait marcher en regardant par terre, il ne fallait pas... même pas de contact visuel avec quelqu'un d'autre, donc ne pas regarder quelqu'un dans les yeux, ne pas sourire, voilà, vraiment aucune communication. Il n'était pas très strict sur le programme. Depuis le début, on nous a dit que voilà, ça c'est le programme, que eux ils ont préparé pour nous les meilleures conditions pour en profiter à fond, et que ce programme-là est ce qu'il faut faire pour profiter à fond de cette période, mais que chaque personne pouvait faire ce qu'elle voulait, et que si tu veux passer la journée à dormir dans ta chambre, tu peux le faire, et que personne ne va venir t'obliger à venir faire le programme. Donc ça aussi j'ai bien aimé, parce que voilà, on responsabilise les gens, on les oblige pas, et ainsi de suite. Et s'il y a une des leçons que j'ai apprises là-bas, c'est à quel point les gens sont très chill. Moi j'avais tendance à être très stricte, dans le sens où quand Sadhguru dit qu'il faut faire quelque chose, je me disais il faut faire ça, c'est comme ça qu'il faut le faire, quoi. Et si j'arrivais pas à faire les choses comme lui il le disait, avec la même cadence, etc., je culpabilisais, ou voilà, je me morfondais sur moi-même, je me mettais la pression en gros. Et là-bas, je me suis rendu compte à quel point les gens ne se mettent pas du tout de pression. À quel point c'est important d'y aller finalement à son rythme, de s'écouter et de faire comme on peut, ce qui nous semble bon à ce moment-là. Et surtout, je pense ce qui est important, c'est vraiment de continuer, en fait. Et ne pas lâcher, ne pas abandonner ses pratiques et tout. Donc pour moi, ça, c'était assez surprenant. Parce qu'il y avait des moments, par exemple, il y avait des journées qu'ils appellent les journées Ekadashi. C'est des journées dans l'année où, par exemple, ils jeûnent pendant la journée. Et pour moi, quand on dit jeûner, c'est jeûner, quoi. Et je voyais que les gens mangeaient des snacks. Et pourtant, au coucher du soleil ou le soir, ils étaient en train de rompre leur jeûne alors que je les ai vus manger pendant la journée. Mais pour eux, c'était quand même une rupture de jeûne. Du coup, bon, j'ai compris que les gens étaient vraiment très chill. Après, par rapport au programme, franchement, il était difficile à suivre, c'était difficile. Et du coup, la majorité ne le suivait pas vraiment à la lettre. Moi aussi, d'ailleurs, parce que c'était too much. Ce qui a été le plus difficile pour moi là-bas, c'est clairement la nourriture. Je mange tellement pas sain souvent et je suis tellement accro au sucre que c'était vraiment très compliqué. Évidemment, on mangeait végétarien, mais on mangeait surtout des graines. Et l'aliment le plus consistant qu'on pouvait avoir, c'était du riz. Et en plus, c'était souvent épicé. Et moi, je mange pas épicé, donc ça limitait vachement mes options. Et finalement, ça me privait un petit peu de ce qui était le plus nutritif. Plutôt, voilà, donc toutes les sauces au curry, toutes les sortes de soupes, je les prenais pas. Il y avait une cafétéria, ça m'a vachement sauvée tous les jours, heureusement, où je pouvais manger aussi, où je pouvais trouver des plats, on va dire des trucs occidentaux, je sais, shame, mais franchement, heureusement qu'il y avait cette cafétéria là. Sadhguru, dans certaines vidéos, il racontait, pour se moquer des gens, il disait qu'il y a plein de gens qui venaient et qui lui disaient, Sadhguru, moi je peux mourir pour toi, je ferai tout ce que tu dis, nanana. Et il dit, et puis, ils passent une nuit à l'ashram et le lendemain, ils font leur valise pour repartir, et quand on leur demande pourquoi, ils disent, parce qu'ils ont pas aimé la nourriture, ce qui est très drôle et très sarcastique aussi, c'est sa façon de se moquer justement pour montrer à quel point au fond, très rares sont les personnes qui sont vraiment prêtes à dédier leur vie à leur quête spirituelle et qu'au final la plupart des gens lâchent à la première occasion pour des choses très futiles et très superficielles telles que voilà, j'ai pas aimé votre bouffe donc salut. Je laisse tomber ma quête et ma voilà. Et j'avoue que pour moi aussi, ça a été très difficile. Pour moi, ce voyage, ça a aussi été une... Ça m'a permis plein de choses. Bon, ça m'a permis de me situer un petit peu, on va dire, dans ma quête par rapport aux autres, même si on ne se compare pas et que chacun, chacune sa voix et chacun est là où il en est dans sa propre quête, mais pour moi, ça m'a permis aussi en fait de connaître mes limites. Voilà, c'est ce que je voulais dire en fait. Ça m'a permis de connaître mes limites, ça m'a permis de savoir jusqu'où je suis prête à aller dans ma quête spirituelle et qu'est-ce que je ne suis pas prête à faire aujourd'hui dans cette vie, en tout cas. Pour moi, ça, c'était important et pour moi, ça, c'est l'un des... une des principales conséquences, on va dire, de ce voyage, c'est que ça m'a clarifié ça déjà. Et ça m'a fait sortir aussi de la théorie, de se dire que voilà, je veux faire ça, je veux faire ceci, cela. Et ça, c'était les deux semaines, c'était une sorte de test, en fait, pour voir vraiment est-ce que tu es capable de t'investir pendant 7 mois, par exemple, dans une formation de Hatha Yoga Teacher Training, par exemple, que je voulais faire. Enfin, pas 7 mois, c'était 21 semaines. Mais il y avait aussi un autre programme, le Sadhanapada, qui dure 7 mois. Est-ce que je suis vraiment capable de passer de vivre 7 mois dans un ashram ou 21 semaines? Et à ce moment-là, il va vraiment falloir, par contre, suivre le programme tous les jours, se réveiller tous les jours très tôt, peut-être pas à 3 heures, mais à 4 heures ou à 4h30. Faire au moins 4 heures de pratique par jour, faire beaucoup de bénévolat. En fait, c'est du travail, c'est pas des vacances. Est-ce que j'étais prête à ça? Et la nourriture pendant plusieurs semaines et plusieurs mois. Franchement, quand j'étais là-bas, je me disais que non, je ne peux pas. 2 semaines, déjà, pour moi, c'était beaucoup. Après 1 semaine, moi, je trouvais que c'était suffisant déjà et que je pouvais rentrer au bout d'une semaine. La première semaine, il s'est passé tellement de choses, c'était tellement intense. La deuxième semaine, j'étais fatiguée dans le sens où c'est bon, l'effet de surprise était passé, l'effet voilà de nouveauté était passé. La deuxième semaine, je pouvais croiser Sadhguru et être en mode ouais c'est bon, il y a pas de quoi s'exciter. Et la deuxième semaine, j'étais plutôt là en train de me reposer, en train de lire des livres. Et j'étais vraiment en mode très chill. Je voulais juste me reposer, en fait. Et je ressentais, moi, le besoin aussi d'aller m'asseoir au Dhyana Linga et tout. Du coup, pour moi, la première semaine était très différente de la seconde. Et il y avait un moment aussi où j'avais juste hâte de rentrer pour voir aussi comment est-ce que j'allais fonctionner une fois que je serais de retour dans mon environnement. Parce qu'en fait, c'est un de ces voyages où c'est après être rentré qu'on se rend compte du changement, de la transformation, de ce qu'on a appris et aussi de comment on devient en fait. Et quand j'étais là-bas, je suspectais déjà ça. Je savais que pour moi, le voyage, c'est comme si j'avais collecté pas mal d'ingrédients. Et j'avais juste hâte de retourner au Maroc, dans mon environnement, pour commencer en fait à cuisiner avec ces ingrédients-là et voir ce que ça va donner en fait. J'étais très curieuse et je savais que le meilleur était à venir en fait et allait se passer au moment où je reviendrai, où je retournerai chez moi. Ce serait pas du tout la fin du voyage, mais ce serait le moment où je vais commencer à déballer un petit peu tout ce que j'ai intégré là-bas. C'est vraiment l'image que j'avais en tête et c'était ça, cette sensation, et j'avais juste hâte. J'avais juste hâte de revenir à mon environnement et voir comment est-ce que j'allais le gérer maintenant, comment est-ce que j'allais exister dedans différemment qu'avant. Et pour moi, c'était surtout ça ce qui m'excitait le plus. Et on revient à cette image de Sadhguru qui disait que ce qui l'intéresse et son objectif, c'est pas que les gens vivent éternellement dans l'ashram, mais justement qu'ils puissent s'outiller pour retourner à leur environnement et pouvoir s'épanouir là-bas en fait et vivre de façon joyeuse et extatique dans vos environnements que vous trouviez avant toxiques. Et ça fait aussi partie des choses qui se sont révélées à moi quand j'étais là-bas, c'est que j'avais déjà un autre regard sur tout ce qui me dérangeait. Par exemple, mon travail, pour moi, ça a toujours été très stressant. Je voyais plein de choses négatives, de personnes négatives, de tâches à faire qui me semblaient lourdes. Et quand j'étais là-bas, en fait, tout a changé. Je repensais à mon travail et je me disais, mais en fait, il est très fun. Il est très fun, mon travail, passer sa journée devant un ordinateur à répondre à des mails, c'est un peu limite comme jouer à la Nintendo 64, quoi. Et puis, les personnes que je pouvais trouver toxiques, au final, je me disais, mais en fait, non, c'est rien du tout, en fait. C'est tellement, c'est tellement léger, c'est tellement facile à gérer, c'est vraiment pas aussi grave que ce que je croyais. Et tout vraiment a repris d'autres dimensions et un autre volume, en fait. Tout est devenu vraiment plus fun qu'autre chose. Là, on est le 14 février, ça fait Ça fait un mois et demi, je crois, que je suis rentrée et mon attitude n'a pas changé. Ma perception n'a pas changé. Autre chose qui s'est passée pour moi là-bas, c'est mes pratiques, ma méditation, mon Shambhavi, pour lequel j'avais la flemme de le faire dernièrement. Quand j'étais là-bas, quand j'ai vu tout ce que les gens font, en fait, tous les jours, toutes les heures qu'ils et elles dédient aux pratiques, je me suis rendu compte, en fait, que faire mon Shambhavi, c'était ma méditation de 40 minutes, c'était un minimum, quoi. C'était vraiment c'est le basique. C'est non discutable. Du coup, depuis que je suis rentrée, je le fais pratiquement tous les jours, mes 40 minutes de méditation le matin, avant d'aller travailler, je n'ai plus la flemme, ce n'est plus quelque chose qui me paraît lourd. Au contraire, ça me paraît assez léger à faire et j'ai bien intégré ça. Et pour moi, juste ça, c'est bon. J'ai aussi l'impression d'avoir gagné des décennies de vie et d'apprentissage en 2 semaines. C'est vraiment l'impression que j'ai et c'est pour ça que je suis infiniment reconnaissante. Ce sont des apprentissages que j'aurais du mal à vous expliquer parce que ce ne sont pas des choses que j'ai apprises. Ce ne sont pas des pratiques que j'ai apprises, ce ne sont pas des choses qu'on m'a dites ou que j'ai entendues, mais c'est des changements qui se font en toi et je pense sur un autre niveau, énergétique ou autre. Et je suis très 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 contente d'avoir pu faire ce voyage, heureusement. Après, c'était aussi des moments où je parlais pratiquement pas. Je passais mes journées seule et ça m'allait très bien. Je n'ai pas vraiment ressenti de manque ou quoi que ce soit. Autre chose là-bas, c'est qu'en fait, une fois qu'on rentre dans l'ashram, chaque personne, elle vit cette expérience à sa façon. Vraiment, on a eu des expériences très différentes les unes des autres. Je partageais ma chambre avec une Indienne que j'ai rencontrée une fois là-bas. Et on partageait un peu, du coup, nos expériences et tout. Et c'est vraiment l'ashram, c'est vraiment un endroit où, en fait, avec lequel on va, comment dire, l'alchimie, c'est comme des réactions chimiques, en fait, mais plutôt énergétiques, qui vont se passer là-bas pour chaque personne, en fonction de son énergie, de la qualité de son énergie. Du coup, chaque personne, elle va vivre des choses spéciales. Moi, par exemple, la première semaine, je crois, surtout, je faisais beaucoup de cauchemars, et des cauchemars assez spéciaux. Des cauchemars ou des rêves. Des fois, c'est des cauchemars, des fois, c'est des rêves un peu spéciaux. Et moi, j'avais compris que c'était lié à l'endroit où j'étais. D'ailleurs, je ne les ai plus refaits, je crois, depuis que je suis rentrée. Je sais qu'ils étaient liés à cet endroit. Et je savais aussi que c'était une façon, je pense, pour moi, d'évacuer un petit peu toutes les choses négatives qui sortait, je pense, aussi sous forme de rêve ou de cauchemar. Du coup, voilà, ça aussi, c'était quelque chose qui m'a marqué là-bas. Et puis, maintenant, je veux vous parler de Sadhguru et de quand je l'ai rencontré, quand je l'ai vu, et ce que ça m'a fait, et ce qui a changé aussi pour moi par rapport à ma relation avec Sadhguru. Après la rencontre. J'ai vu Sadhguru pour la première fois le lendemain, je crois, de mon arrivée, lors d'un rituel qui se passait, qui était ouvert au public, que je ne connaissais pas du tout, que j'ai découvert et que j'ai vécu, que j'ai expérimenté pour la première fois, que j'ai bien aimé. Sadhguru est arrivé au début. Bien sûr, j'ai pleuré. C'était un moment d'émotion. J'ai fait la méditation, une méditation que je rêvais de faire avec lui. On l'a faite. C'était comme ça que j'ai vu Sadhguru pour la première fois en vrai. Il était très loin. J'étais pas du tout à côté. J'étais à plusieurs mètres. Et on l'a vu genre quelques instants et puis après on le voyait plus parce que c'était pas lui le centre de l'événement. Le lendemain, je l'ai vu dans un darshan. C'était le 24 décembre, donc il a fait son speech. Quand Sadhguru est arrivé, en fait, ça se passait en plein air. On était assis comme dans un jardin en fait, par terre bien sûr toujours. Et puis il est venu, ça commence toujours vers 18h20, 18h15, et ça dure généralement 45 minutes, 1 heure. Et puis après, il y a des sessions de questions-réponses. Donc quand Sadhguru est entré, souvent quand il vient, il y a souvent beaucoup de choses qui se passent dans le public. Il y en a qui pleurent, il y en a qui crient, il y en a qui entrent en transe. Il se passe vraiment plein de choses, et c'est vraiment toujours en fonction des énergies de chacun, chacune. On m'a dit là-bas que quand tu fais ta méditation, que ce soit à l'intérieur du Dhyanalinga ou quand Sadhguru est là et tout, en fait, il y a différentes sortes de personnes. Il y a des personnes qui commencent à bouger dans tous les sens. Il y a des personnes qui commencent à bouger comme si elles dansaient, et qui bougent la tête, la colonne vertébrale, voilà. Et puis, il y a des personnes qui deviennent totalement immobiles avec la colonne vertébrale droite et tout. Moi, je fais plutôt partie de cette catégorie-là. Et la personne qui partageait la chambre avec moi m'a dit que quand tu deviens immobile, ça veut dire que ton système énergétique est stable et que les autres personnes qui bougent, c'est justement l'énergie qui bouge dans le corps et donc elles bougent avec. Moi, quand Sadhguru est entré, j'ai pas crié, j'ai pas. Par contre, j'étais pas vraiment dans un moment d'émotion, en tout cas pas dans le sens où je pleurais ou je ne sais pas, et j'étais pas non plus en mode hyper impressionnée comme si je voyais une star devant moi, alors que c'est ce que j'avais imaginé, c'est ce à quoi je me serais attendue de ma part, c'est comme ça que je pensais vivre cette rencontre. Mais en revanche, quand il est arrivé, j'avais ressenti quelque chose de très fort là où se trouve le chakra du cœur, le anahata. C'est vraiment entre les deux seins, c'est au milieu de la poitrine. Je ressentais une chaleur immense et un peu comme un trou, comme s'il y avait un trou qui se faisait. Et c'était très 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 intense et ça a duré plusieurs minutes. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Après, Sadhguru a fait son speech. Et puis il y avait une session de questions-réponses qui était super 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 émouvante, avec des questions existentielles que les gens lui ont posées que j'ai trouvées qui étaient vraiment vraiment profondes et intéressantes, et des questions qui pourraient être du genre genre j'ai fait ce que tu as dit, mais depuis que je fais les pratiques, je suis malade. Je vais pas bien. Donc juste pour vous dire que toutes les questions ne le caressaient pas dans le sens du poil. Au contraire, il y avait des questions comme ça. Ou de personnes qui disaient, voilà, ça fait 6 ans que je fais du bénévolat à plein temps dans l'ashram, mais maintenant je suis totalement perdue. C'est comme si plus rien n'avait de sens pour elle et qu'elle ne sait plus finalement pourquoi elle fait tout ça. Donc j'ai été vraiment très très touchée par ces questions. Et que les personnes aient posé ces questions-là, et ce ne sont pas des choses qu'on voit sur YouTube. Et j'ai beaucoup aimé donc cet échange. Après, il y avait un moment où une personne qui venait d'Afrique du Sud a posé une question par rapport à des yogis qui étaient en Afrique il y a 3000 ans, et il demandait à Sadhguru de nous expliquer ce que ces yogis-là faisaient en Afrique. Et en fait, la personne avait dit qu'elles étaient en Afrique du Sud, et là, Sadhguru la corrige et dit en fait... ces yogis étaient bien en Afrique, mais c'était pas en Afrique du Sud, ils étaient en Afrique du Nord, et plus spécialement au Maroc. Moi, j'étais trop choquée. Je n'ai jamais entendu Sadhguru parler du Maroc. Comme par hasard et comme par coïncidence, le jour où moi je suis là, il a parlé du Maroc et des Marocains pendant un bon quart d'heure. en tout cas ce qui m'a semblé être un bon quart d'heure. Il a parlé de Marrakech, d'un café à Marrakech, j'étais en mode quoi ? Et il a parlé en fait que il a dit qu'il y a des liens génétiques entre les Marocains et les Indiens. Et moi j'étais en train de devenir folle dans mon coin toute seule. Je me retenais vraiment de crier, j'étais en mode mais je le savais quoi qu'il y a un lien. Et puis il a parlé du fait que en fait le savoir yogi il existait aussi dans un autre coin du monde et c'était au Maroc et que les bases de ce savoir il est basé en fait sur de la géométrie et que ça existait aussi chez nous sauf que nous on l'a perdu et alors que ça a continué ça s'est perpétué en Inde. Il a parlé des liens génétiques parce qu'il y avait des Indiens ici pour faire de l'import-export. Et du coup, il y a forcément eu des liaisons entre Marocains et Indiens qui a fait qu'aujourd'hui, il y a des liens génétiques. C'était assez incroyable. Et le lendemain, j'avais rencontré une bénévole qui vit à l'ashram depuis 22 ans. Elle est libanaise. Et qui m'a dit, mais est-ce que tu as entendu Sadhguru hier ? Il a parlé du Maroc. J'ai dit oui, mais j'arrivais pas à y croire. J'étais dans tous mes états et tout. Et elle m'a dit, bah, je peux te dire qu'en 22 ans, il n'a jamais parlé du Maroc. Et elle m'a dit, je peux te dire que c'est pas une coïncidence. Il n'y a pas de coïncidence avec Sadhguru. Et moi, je lui disais, mais moi aussi, je sentais ça. Je me disais, c'est pas une coïncidence. Mais moi, je m'étais dit peut-être que vous lui avez communiqué genre les statistiques des personnes qui sont là et qu'il savait qu'il y a quelqu'un qui est venu du Maroc. Et là, elle m'a dit non. Sadhguru ne nous demande jamais ce genre de statistiques. Tellement il y a des gens qui viennent de partout que voilà, c'est pas vraiment quelque chose de pertinent. Elle m'a dit, mais moi, je pense qu'il a ressenti ta présence. Du coup, aujourd'hui, je me dis que j'ai rencontré Sadhguru, qu'il y a eu une rencontre. Sur le plan énergétique. Et ce qui a vraiment changé pour moi là-bas, après j'ai croisé Sadhguru presque tous les jours cette semaine. Il y avait un moment où on n'était que trois personnes dans un endroit, dans l'ashram. On était en train de chiller, moi j'étais sur mon téléphone, je faisais une pause. Et puis là, Sadhguru, il vient, il passe sur sa moto et il me regarde droit dans les yeux avec son regard hyper sérieux, pas du tout en mode souriant et fun et drôle, en train de faire des blagues comme d'habitude, mais il avait son regard de Samyama que j'aime tellement. Quand il est le mystique, il n'est pas l'homme, mais il est le gourou. Et il m'avait regardé comme ça. Et genre, on était à quelques centimètres l'un de l'autre. Moi, j'étais là avec le sourire jusqu'aux oreilles. Je pense que j'étais sous ma forme de joie la plus pure. Et lui, il m'a regardé comme ça. Ça, c'est aussi quelque chose que j'oublierai pas. Après, je l'ai vu plusieurs fois. Et c'était à chaque fois trop, 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 trop bien. Après, moi, ce qui a changé pour moi par rapport à Sadhguru, c'est que j'ai vu l'homme aussi qu'il est, en plus du gourou et du mystique, que je voyais surtout sur les réseaux sociaux. Mais j'ai vu l'homme. Et je ne sais pas comment expliquer ni pourquoi, mais pour moi, j'ai l'impression que c'est comme s'il y a une relation d'égal à égal maintenant. C'est comme ça que je le vois. Pas que je suis l'égale de Sadhguru, mais je l'ai vu comme ça. C'est comme si c'est une relation de adulte à adulte, une relation comme si j'avais compris en fait, comme si je devenais plus responsable. En fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là-bas. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on nous appelle les devotees, donc les personnes qui sont dévouées. Ça m'avait aussi fait très drôle quand j'ai compris que quand je lisais des instructions pour les devotees et là quand j'ai réalisé que c'était moi la devotee, la dévouée, ça m'a fait vraiment quelque chose. Je me suis dit waouh, genre donc moi aussi je suis une devotee. Parce que ça, c'est quelque chose dont Sadhguru parle beaucoup, qu'il faut être dévoué dans ce qu'on fait, dans tout ce qu'on fait, et aussi dans sa quête. Pour lui, un des mots clés, c'est le dévouement, être totalement dévoué. Et en fait, là-bas, les gens, ils sont beaucoup dans la vénération, un peu trop, selon moi. Un peu trop dans le sens où Sadhguru aussi, il dit qu'il ne faut pas admirer quelqu'un. Et c'était une des premières leçons qu'il avait données à sa fille, c'était n'admire personne. Parce que si tu admires quelqu'un, ça veut dire que tu vas en mépriser un autre. Donc n'admire personne et ne méprise personne. Et pour moi, c'est ça ce qui a changé pour moi par rapport à Sadhguru, c'est que je ne l'admire plus. Pour moi, en fait, quand on admire quelqu'un, c'est comme si on se fait un idéal, on se crée un idéal de cette personne. Et qui dit un idéal, ça veut dire que ce n'est pas vraiment réel, que c'est trop parfait. Et pour moi, maintenant, ce qui a changé, c'est que je ne l'admire plus, dans le sens où, pour moi, j'ai vraiment pris conscience de ce qu'il est. Et je l'ai bien intégré, c'est en moi maintenant. C'est dans ce sens-là où je dis que j'ai une relation d'égal à égal avec lui. C'est-à-dire que avant, par exemple, je me disais non, je peux pas parler à Sadhguru, mais qu'est-ce que je vais lui dire, nanana, genre lui c'est une montagne. Mais aujourd'hui, j'aurais beaucoup de dévouement, de respect, de tout ce que vous voulez face à lui, mais je suis aussi capable de tenir bon face à lui, dans le sens où sont capables d'accepter mes responsabilités, d'être responsable. Je pense que c'est un peu difficile à expliquer, ça peut paraître un peu abstrait, mais c'est comme ça que je me sens. Je me suis sentie totalement responsable et consciente de ma responsabilité, consciente de ce qu'il est et de ce que je dois être, je pense. Voilà. Et pour moi, quand je le vois, je suis pas en mode, je vais pas me prosterner à ses pieds, mais je suis plutôt en mode, j'ai du boulot. Il y a du boulot à faire, j'ai du boulot à faire, je sais ce que j'ai à faire et il faut que je le fasse et il faut que j'y aille. Voilà, c'est plutôt cette attitude-là que j'ai maintenant. Et je me dis que de toute façon, lui, il ne veut pas qu'on l'admire. Lui, justement, ce qu'il veut, c'est que chaque personne se sente responsable et qu'elle s'y mette, quoi. Qu'elle passe à l'action et qu'elle fasse tout pour devenir une personne encore plus consciente. Et que c'est ça ce qui l'intéresse, c'est pas vraiment que les gens se mettent à ses pieds, quoi. Donc pour moi, ça, c'était aussi quelque chose qui a changé. Je me suis sentie, je pense, grandie. Et voilà. C'était une sacrée expérience. C'était 2 semaines très, très intéressantes. J'aimerais bien retourner à Isha assez régulièrement. Soit une semaine, soit quelques jours. Pas plus, je pense. En tout cas, pour l'instant, je n'en ressens pas le besoin. Mais aussi, une des choses qui se sont passées pour moi là-bas et qui était assez surprenante, c'est que le fait de passer 2 semaines au sein d'un ashram, ça m'a donné hyper envie de vivre, en fait, après, de prendre soin de moi, d'aller me couper les cheveux, de changer la couleur de mes cheveux, d'aller faire du shopping. alors qu'on pourrait croire que 2 semaines dans un ashram, après, j'aurais envie de vivre comme un moine et vivre, tu vois, de façon hyper simple et de me débarrasser de tout ce qui est matériel et superficiel. Et en fait, ça n'a pas du tout été ça. Au contraire, le fait de vivre là-bas, ça m'a fait réaliser à quel point ma vie de tous les jours hors ashram, pas le paradis, mais c'est un peu comme si j'étais en vacances tous les jours et tout le temps. Je suis libre de manger ce que je veux, de m'habiller comme je veux, de sortir, de faire ce que je veux, de mon temps. et j'ai décidé en fait d'en profiter un maximum. même la pression que je me mettais avant sur la nourriture, maintenant quand je suis revenue, je peux manger des pâtisseries et je me dis et je les savoure et j'en profite parce que je me dis que ce sera pas toujours possible. Il y a un jour où je serai dans un ashram et où je pourrai pas manger de pâtisseries. Donc autant en profiter quoi, au lieu de culpabiliser et tout. C'est un peu drôle, c'est comme si c'était l'effet inverse qui s'est passé pour moi. Mais voilà, c'est ce qui s'est passé en tout cas. Et même avec mes pratiques de méditation, tout ça, je suis plus relax. Voilà, j'essaie de les faire tous les jours. Si je les fais pas, il y a un jour où je le fais pas, je le fais pas. Et puis c'est bon, c'est pas. Je ne m'attarde pas plus que ça sur ça. Je ne me flagelle pas parce que j'ai pas fait ma pratique. Et puis j'ai aussi compris qu'il faut s'écouter, qu'il y a des jours où tu as vraiment envie et besoin de méditer. Enfin, moi, j'ai besoin de méditer. Et puis, il y a des jours où j'en ai pas vraiment besoin, ou si j'ai pas le temps, c'est pas grave. Voilà, des fois, faut pas se forcer non plus. Ça marche pas aussi, en fait, si on se force à s'asseoir et fermer les yeux, c'est pas ça, la méditation, et ça marche pas, de toute façon. Donc, voilà. C'est ce que j'ai appris, un petit peu, en gros. Être plus chill. Et puis le changement, la transformation, tout ce qui s'est passé après ce voyage et pendant ce voyage, ça continue et j'espère que ça va continuer encore très 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 longtemps. Et je pense que la meilleure façon pour moi de partager ça avec vous, c'est pas avec des mots. Que de toute façon, je ne sais pas, mais ça va se... Je réussirai à le transmettre d'une façon ou d'une autre. Voilà, je ne sais pas comment, ce que je sais, c'est que les mots ne sont pas suffisants et ne sont pas le meilleur moyen, des fois, de transmettre l'essentiel. Avant de voir cette gourou, j'avais une confiance totale en lui. J'ai jamais eu de doute sur sa vérité, sur ce qu'il dit, sur ce qu'il est. Après être partie à Isha Foundation, après avoir rencontré cette gourou physiquement et j'espère au-delà du physique, pour moi, aujourd'hui, je pense que je l'ai vraiment intégré. C'est même plus un homme en qui j'ai confiance ou ça fait partie de moi. Sadhguru parle beaucoup de l'inclusion, le fait d'inclure l'autre et faire en sorte qu'il fasse partie de toi. Je pense que j'ai inclus Sadhguru, maintenant il est en moi. D'ailleurs, une autre des choses qui ont changé, c'est qu'avant de partir à Isha, je parlais tout le temps de Sadhguru, je disais tout le temps aux gens, ah, vous savez ce que Sadhguru a dit, il a dit ceci, cela, nanana. Aujourd'hui, j'en parle beaucoup, beaucoup moins, presque plus. Depuis que je suis rentrée, je ne fais plus ça. Tellement pour moi, il n'est plus à l'extérieur, il est à l'intérieur. Et pour moi, c'est devenu quelque chose de aussi vrai que, je ne sais pas, aussi vrai et ancré et solide et évident et que, je ne sais pas, que le ciel qui est en haut et la terre qui est en bas, enfin, ça fait partie, c'est vraiment une de mes fondations. Voilà, quelque chose qui est tellement intégré en moi, encore une fois, que je ressens même pas le besoin et je vois même pas l'utilité d'en discuter, quoi. Comme si avant, je voulais prouver aux gens que regarde ce qu'il a dit, tu vois que ça fait sens, tu vois que machin. Et aujourd'hui, je ressens plus le besoin de prouver aux gens que ce que dit Sadhguru est la vérité ou que ça fait sens. Pour moi, maintenant, c'est bof, quoi. C'est pas important. C'est pas important pour moi que les gens le réalisent ou en prennent conscience. Pour moi, maintenant, mon attention, elle est ailleurs. Et puis, je sais qu'il est là et que les personnes qui sont prêtes à le voir vont le voir. Et les personnes qui ne sont pas prêtes à le voir, ça sert à rien. Enfin, pas que ça sert à rien, mais voilà, je ne ressens plus le besoin, en tout cas, de dépenser mon énergie pour faire voir Sadhguru. Pour moi, il est partout. Et qu'il suffit de voir pour le voir. Et comme j'ai dit la dernière fois, si on ne le voit pas, ce n'est pas grave. Heureusement, il n'y a pas que Sadhguru. Je ne sais plus où est-ce que j'avais vu ça. Quelqu'un l'avait dit, c'est un des personnes des Brahmacharis, les moines qui vivent très proches de lui. Il y avait quelqu'un qui avait dit ça, qui avait dit que tout le monde est Sadhguru ou quelque chose comme ça. Et c'est très vrai. C'est très vrai, ça fait très sens. Et c'est très logique, en fait, au fond, quand on y pense. C'est impossible qu'il y ait... il suffit de réfléchir un tout petit peu pour savoir que c'est impossible qu'il n'y ait qu'une seule voie qui soit la bonne, une seule religion qui soit la bonne, une seule croyance. C'est pas possible. Il y a autant de voies et autant de chemins et de vérités que de gens. Elles mènent toutes à la même direction, au même endroit. Mais les voies sont différentes et c'est OK. Et il faut accepter ça et prendre des voies différentes. Le plus important, c'est... Ouais, on dit le plus important, c'est le voyage et pas la destination. Mais moi, je dirais que le plus important, c'est aussi la destination, quoi. C'est qu'on ait la même destination. Après, peu importe la voie, c'est pas... On n'est pas pareil et donc c'est normal que les voies qu'on emprunte ne soient pas les mêmes. Mais au fond, ce qu'on veut tous, c'est la même chose. Donc voilà. Je vais m'arrêter là pour cet épisode. Je vais aller m'allumer un bon encens que j'ai ramené de Isha. Et je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée, en fonction du moment que vous écouterez cet épisode. Et j'espère qu'il vous aura plu et intéressé. Et si quelqu'un ici qui l'écoute hésitait à aller vivre dans un ashram, ben moi je vous encourage à fond à le faire parce que c'est une sacrée expérience.